RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On entend tout et son contraire concernant le projet de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD sera-t-elle évacuée? Le futur aéroport sortira-t-il un jour de terre? Les hommes politiques se contredisent en permanence, c'était encore le cas cette semaine. Nous ferons le point dans un instant avec Anthony Torzec. L'agriculture française est bien mal en point, pourtant le secteur attire toujours autant de jeunes. Des jeunes loin d'être démoralisés par la conjoncture. Seulement, il est difficile de trouver une exploitation à reprendre. En Mayenne, des solutions existent. Nous le verrons avec Samuel Pécaud. Rendre attractif sa commune rurale n'est pas chose aisée. En Sarthe, un maire a tout tenté jusqu'à vendre le mètre carré à 1 euro symbolique pour attirer des habitants. Sans grande réussite, c'est la rencontre de la semaine proposée par Aubery Métro de RCF Le Mans. Dans la pause spirituelle, nous parlerons du dernier ouvrage de Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican. À travers 2000 ans d'histoire, il retrace la vie des papes emblématiques qui ont marqué de leur empreinte leur pontificat. Dans une vingtaine de jours, le départ du Vendée Globe sera donné des plages des Sables d'Olonne. En attendant, le village départ a ouvert ses portes il y a moins d'une semaine. Nous y reviendrons à la fin de ce magazine. Voilà ce qui vous attend dans cette hebdo-région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Une semaine de cacophonie sur le sujet de projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ces derniers jours, au plus haut sommet de l'État, les déclarations se sont succédées et contredites. On fait le point avec vous, Anthony Torzec.
Bonjour Bastien et bonjour à toutes et à tous. Oh oui, quelle semaine! Ça a commencé lundi avec la déclaration de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, sur une télévision nationale qui se disait être contre l'évacuation par la force de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Les élus locaux ont répliqué mardi. Ils ont demandé au président de la République de recadrer la ministre de l'Environnement. Dans un communiqué, le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le président du département de Loire-Atlantique et les maires de Nantes et de Saint-Nazaire ont demandé donc mardi au président de la République et au Premier ministre de recadrer Ségolène Royal qui, je cite, « ne peut impunément bafouer leur autorité et mépriser les citoyens qui se sont prononcés pour ce projet d'aéroport ». Mercredi, le recadrage a eu lieu avec la déclaration de Manuel Valls. L'évacuation de la ZAD se fera cet automne. Et puis, jeudi, patatras, repolémique avec la sortie de l'ouvrage Confession sur François Hollande. Les deux auteurs de l'ouvrage, un président ne devrait pas dire ça, dévoilent l'opposition officieuse du chef de l'État à ce transfert d'aéroport. Selon eux, François Hollande aurait déclaré il y a un an « Je ne suis pas pour ce projet, il ne verra pas le jour ». L'Élysée explique cette semaine que ces mots ont été prononcés avant la consultation des habitants de Loire-Atlantique qui ont dit « Oui, vous le saviez au projet ». Du côté des élus locaux, on préfère garder en mémoire les déclarations de Manuel Valls plutôt que ses écrits journalistiques. Même position de la part du président de l'association Pro-Aéroport Les Ailes pour l'Ouest, Alain Mustière.
Du côté du président de la République, c'est le livre qui est écrit par des journalistes qui sèment le doute. Mais son expression publique récente et plus ancienne a toujours été constante en disant qu'il y a une volonté des élus politiques de la région de faire cet aéroport. On lance la consultation. Si la consultation est positive, l'aéroport devra se faire. Donc ça, c'est des expressions publiques. Tout ce qui est écrit après, moi je ne sais pas.
Mais vous pensez sincèrement qu'un président de la République qui ne croit pas en ce projet va envoyer les forces de l'ordre pour une évacuation?
Écoutez, il ne croit pas à ce projet, je n'ai jamais entendu ça de sa part. Il a des doutes par rapport à peut-être la réalisation, j'en sais rien, ou des moyens qu'il faut déployer, mais je n'ai jamais entendu le président de la République, dans aucune interview, exprimer qu'il était contre l'aéroport. Ce serait inimaginable qu'un Premier ministre déclare, là, dernièrement, il confirme sa position qu'à l'automne, il devrait commencer les travaux et évacuer les lieux. Je ne vois pas comment on pourrait revenir là-dessus. Je ne le vois pas.
Le Premier ministre a annoncé le début des travaux pour l'automne en rajoutant que si l'évacuation n'avait pas lieu avant mars prochain, c'est un projet qui tomberait à l'eau. Vous pensez la même chose?
Oui et non. C'est-à-dire que on a des enquêtes d'utilité publique, des délais d'expropriation, etc. On a un certain nombre d'échéances qui tombent. Ça compliquerait un peu les choses et ça leur ferait prendre du retard, mais une DUP se prolonge toujours. Il y a toujours des possibilités de continuer.
Alain Mustière, le président de l'association Pro Aéroport, les ailes pour l'Ouest. Du côté des opposants à l'aéroport, eh bien, on se félicite plutôt de ces propos de François Hollande repris dans cet ouvrage. Un président ne devrait pas dire ça, mais on aimerait aussi des propos un peu plus clairs, évidemment, contre cet aéroport. Vous voyez bien, Bastien, on aura encore des choses à dire dans les prochains mois.
Oui, on entend tout et son contraire sur ce projet. Très honnêtement et brièvement, Anthony, vous, votre analyse, il a encore des chances de voir le jour, cet aéroport?
Eh bien ça, je vous le dirai ça dans les prochains mois, comme l'a dit Alain Mustière, il faut bien se l'avouer, à partir de mars prochain, ça devrait être beaucoup plus compliqué de mettre en place la construction, puisque la DUP prendra fin en 2018, donc en gros, hein, pour ces 6 prochains mois, tout va se faire, c'est en mars prochain que l'on saura si cet aéroport verra le jour un jour.
Et merci Anthony, nous suivrons cette actualité avec attention. Dans le reste de l'actualité, une quarantaine de migrants de Calais devraient arriver en Mayenne la semaine prochaine. Ils seront hébergés dans le village de Sainte-Suzanne, l'un des plus beaux villages de France. L'agence régionale de santé et le conseil départemental avaient décidé en début d'année de fermer la maison de retraite du village pour des raisons de sécurité. Et c'est justement dans cet ancien EHPAD que les migrants seront hébergés temporairement. Une cinquantaine d'habitants avaient manifesté au début du mois contre cette décision. Rappelons que Sainte-Suzanne avait déjà accueilli une vingtaine de migrants dans son village vacances pendant plusieurs mois à partir de la fin d'année dernière. Le Maine-et-Loire, lui aussi, devrait accueillir plusieurs dizaines de réfugiés en provenance de Calais ces prochains jours. Enfin, l'église catholique de Loire-Atlantique va accentuer elle aussi son accueil de migrants dans les prochaines semaines. Plusieurs paroisses du département proposent déjà des hébergements à des migrants en attente de régularisation. C'est le cas de la chapelle sur Erdre, des Sorinières, Bousset, près de Clisson ou encore Sainte-Thérèse à Nantes. Prochainement, un accueil est prévu à Saint-Viau dans le pays de Retz, mais également à Nantes avec l'arrivée de migrants venus de la jungle de Calais. On reste à Nantes. Justement, les amis de Romain Barré, assassiné dans la nuit du 27 au 28 septembre dernier, organisent une marche blanche ce samedi. Elle partira de la place Viarme, là où la victime a passé sa dernière soirée avant d'être étranglée. Quant à la justice, elle va pouvoir faire son travail. 5 personnes ont été mises en examen dans cette affaire.
L'Hebdo Région, initiative.
Et bonjour Samuel Péco.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Crise du lait, déficit des exploitations, suicide d'agriculteurs, ce sont souvent les thèmes qui font la une de l'actualité agricole ces derniers mois. Mais malgré tout ça, des jeunes continuent de croire dans ces métiers de l'agriculture qui nous nourrissent et souhaitent donc s'installer. Mais comment trouver une ferme à reprendre? Comment céder son exploitation à un jeune motivé? Les jeunes agriculteurs de la Mayenne ne manquent pas d'imagination pour favoriser les rencontres.
Oui Bastien, ils ont en effet décidé de copier les speed dating. Vous savez, ces soirées pour aider les célibataires à rencontrer l'âme sœur, lors desquelles les personnes se présentent en quelques minutes en espérant le coup de foudre. Et bien là, c'est un ferme dating qui est organisé le 25 novembre prochain dans la salle de la Rincerie près de Cran. L'idée est la même, favoriser la rencontre en réunissant dans la même salle une quinzaine d'exploitants qui vont bientôt partir en retraite et une cinquantaine de jeunes qui, eux, rêvent de devenir agriculteurs en leur laissant 7 minutes montre en main pour prendre un premier contact en tête à tête, comme nous l'explique Thomas Gauthier, vice-président des jeunes agriculteurs de la Mayenne.
Oui, voilà, c'est vraiment le but. On recherche aussi d'associés pour ceux qui recherchent des associés. Donc voilà, c'est vraiment le but pour avoir un premier feeling. Pas aller dans le fond du projet, mais vraiment le premier feeling, le premier abord, voir l'exploitation qui est à reprendre, quel type de production, quel, voilà. C'est pas là qu'on va dire, on va acheter, mais déjà le premier contact. C'est vraiment un échange, un feeling qui va passer entre un cédant et puis un candidat, et voilà, l'exploitation présentée. Mais c'est après, pour approfondir, il faudra aller avec la chambre d'agriculture, voilà. Mais c'est vraiment le premier contact.
Et des fermes à reprendre dans le département de la Mayenne, il y en a beaucoup, près de 3 fois plus que de candidats à la reprise. D'où cette volonté d'innover qui est soutenue par la Chambre d'agriculture de la Mayenne, comme l'explique Benoît Faucon, son vice-président, chargé justement de l'installation en agriculture.
Démographiquement, on va avoir une montée en puissance des départs en retraite. En 2015, on était à peu près à 250 départs en retraite et en 2020, on va être à 400 départs en retraite. Donc on voit un petit peu le challenge qui nous attend dans les prochaines années pour installer un maximum.
D'autant plus dans le contexte actuel, cette semaine, on a par exemple appris qu'un agriculteur sur 3 se dégage seulement 350 € de salaire mensuel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne décourage pas les jeunes et ils continuent à croire en l'avenir de l'agriculture?
Alors nous, au niveau de la chambre d'agriculture, donc nous avons une mission de service public qui s'appelle le point accueil installation transmission. Et sur l'année 2015, on a eu une légère augmentation donc, du nombre de candidats. Donc on a un peu plus de 200 à 210 candidats qui sont passés en 2015. Et donc on voit que le chiffre ne diminue pas d'année en année. Après, ce qui se passe, c'est que quand on a des périodes de conjoncture relativement difficiles, comme on vit là depuis une vingtaine de mois, c'est souvent d'un point de vue financier, c'est les banques qui bloquent ou qui demandent d'être rassurées ou qui demandent des garanties sur le projet. Donc on a toujours autant de jeunes, par contre la faisabilité est plus compliquée.
Et dans cette soirée Farm Dating du 25 novembre, ce sont les jeunes qui n'ont pas grandi dans une ferme que l'on souhaite attirer, ces jeunes qui ne deviennent pas agriculteurs par tradition familiale, mais bien par vocation.
On a de plus en plus de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui s'installent dans la culture qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc justement, c'est des gens qui ont la passion, qui ont la motivation, mais qui n'ont pas toujours un lieu ou une exploitation connue. Donc, et puis d'un autre côté, on a des futurs cédants qui leurs enfants n'ont pas fait le choix de l'agriculture ou qui font le choix d'installer mais qui n'ont pas de repreneur. Donc c'est important. Il y a deux attentes des deux côtés et c'est bien de se faire confronter, de faire rencontrer ces deux attentes et pourquoi pas faire naître un feeling ou un intérêt réciproque et puis d'aller après jusqu'à la finalisation du projet de transmission et du projet d'installation pour l'un et l'autre, quoi. On accueille les porteurs de projets à bras ouverts, quoi.
Alors ça sera le premier Farm Dating en Mayenne où une quinzaine de futurs retraités sont déjà inscrits, mais cette formule novatrice a déjà été mise en place dans d'autres départements de la région avec des installations à la clé.
Il y a de très très bons échos en Loire-Atlantique, également dans le Maine-et-Loire. Eux, ça fait 3-5 ans que c'est mis en place. Eux, quand c'est le genre de soirée, tout public confondu, ils font à peu près une 50 à 60 personnes. Donc c'est pour ça que l'envie nous a donné de faire comme eux et d'essayer, quoi.
Rendez-vous donc dans la salle de la Rincerie près de Cran le vendredi 25 novembre à partir de 19h pour ce Farm Dating. 7 minutes d'échange qui décideront de l'avenir d'exploitants et d'exploitation agricole.
Et merci Samuel pour ces informations. Malgré ces difficultés, l'agriculture vendéenne, elle aussi, reste un secteur fortement pourvoyeur d'emplois. Mais elle a du mal à trouver des jeunes intéressés par ces métiers, notamment pour l'horticulture, la polyculture et l'élevage. C'est pourquoi l'AVEFA, l'Association Vendéenne pour l'Emploi et la Formation en Agriculture, vient de produire 3 clips vidéo. Une façon de convaincre que ces métiers ont un bel avenir. Enfin, une convention a été signée cette semaine entre la ville de La Roche-sur-Yon et le ministère de la Défense. Désormais, les agents de la ville pourront s'absenter plus facilement pour des missions au service de la nation en tant que réservistes de l'armée. La convention prévoyant d'allonger la période de disponibilité des agents jusqu'à 15 jours par an.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Et cette semaine dans Rencontre avec, nous prenons la direction de la Sarthe. Bonjour Aubery Métro.
Bonjour Bastien.
Vous avez rencontré il y a quelques jours un maire plutôt démuni. Il fait tout pour redynamiser sa commune rurale et c'est sans grand résultat.
Et oui, il a fait la une des médias il y a un an parce qu'il a mis en vente des terrains à 1 euro le mètre carré pour bâtir un nouveau lotissement sur sa commune. Le maire de Conflans-sur-Agne, il comptait ainsi sur ses nouvelles familles pour que son petit village de 600 habitants dans l'est de la Sarthe reprenne vie. Malheureusement, aucune maison n'est sortie de terre. Les acheteurs qui s'étaient engagés par écrit auprès de la mairie se sont désistés. Seulement 2 permis de construire ont été signés et il ne reste que 2 mois à Jean-Marc Lambert pour conclure les ventes à ce prix de 1 euro.
Alors la délibération qui a été prise par le conseil municipal est valide jusqu'à la fin de cette année, donc jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc si on peut les remettre sur le marché avant la fin du mois de décembre, ils seront effectivement à 1 euro le mètre carré. Simplement il faudra que les gens soient très très actifs pour concrétiser les acquisitions parce que la délibération dit bien jusqu'au mois de décembre. Donc si au mois de décembre... les ventes ne sont pas formalisées, il faudra soit reporter, soit reprendre une nouvelle délibération.
Et ce n'est pas certain que le conseil municipal donne une nouvelle fois son accord, car le village a beaucoup investi pour peu de résultats, admet Jean-Marc Lambert.
On a fait de la pub et on a dépensé beaucoup d'énergie pour malheureusement peu de résultats, on va dire. Une des motivations de la commune était d'avoir des familles qui arrivent avec des enfants pour pérenniser un peu l'école. L'autre était aussi d'avoir des populations qui viennent pour contribuer à ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire redémarrer le dernier commerce local. On a fait des travaux de viabilisation donc pour 10 parcelles. La commune fait un effort relativement important pour essayer d'attirer les populations. Là, la commune, quand elle vend à 1 euro le mètre carré, la commune fait 30 ou 35 euros d'effort à chaque mètre carré qu'elle vend, quoi.
Et à cela, Aubery, s'ajoute un autre coup dur dont on a parlé récemment dans l'Hebdo-Région.
Et oui, la direction académique, l'éducation nationale, quoi, prévoit de fermer 128 des 450 écoles sartoises d'ici 10 ans. Il s'agit d'établissements de moins de 5 classes et c'est le cas à Clonfont-sur-Anil. Jean-Marc Lambert se prépare donc à mener une nouvelle bataille.
Comme beaucoup, beaucoup de communes rurales, on a une population qui vieillit, donc on espère pour que la commune continue à vivre. Pour pérenniser l'école, bah, il faut qu'on ait des familles plus jeunes qui arrivent avec des enfants. Dans un village, une école, c'est essentiel. Continuer à ce que le village existe, voilà, l'école, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Et vous êtes prêt à vous mobiliser si jamais ce plan se met en place? Vous vous mobiliserez, vous, en tant que maire d'une petite commune?
Ah oui, c'est tout à fait probable. Oui, on a déjà eu quelques difficultés il y a quelques années. Pour garder nos trois classes, on était un peu limite au niveau de l'effectif. On subit beaucoup trop cette dictature, je vais dire technocratique, sur l'organisation de nos communes, quoi. C'est lamentable.
Entre la désertification, ce problème des écoles et puis le changement d'intercommunalité, le congrès des maires de la Sarthe qui se tient ce samedi près du Mans s'annonce donc houleux, d'autant que Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est attendu pour clôturer la journée.
Et Stéphane Le Foll, ministre sartois, je le rappelle. Merci au Berry, à la semaine prochaine.
Merci Bastien.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Vaticaniste reconnu, le journaliste Bernard Lecomte, invité par les AFC d'Angers, est venu donner en début de semaine une conférence dans le Maine-et-Loire sur son dernier ouvrage, Le Dictionnaire amoureux des papes. Il nous livre son regard sur 2000 ans d'histoire du Vatican et dans son ouvrage, Bernard Lecomte évoque une soixantaine de papes parmi les plus emblématiques. Raphaël Delacroix lui a demandé de nous donner une caractéristique pour les trois derniers. Voici sa réponse en commençant par Jean-Paul II.
Si vous me demandez un seul exemple, eh bien, je vous dirais, Jean-Paul II et son extraordinaire intuition d'avoir inventé les JMJ. Je pense que on n'a peut-être pas assez souligné cette intuition exceptionnelle. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on est en 78 quand Jean-Paul II est élu pape, l'Église est en train de perdre complètement le contact avec la jeunesse. Il y a eu les débats post-conciliaires, il y a eu mai 68, tout ça bouge beaucoup. Et c'est le pape polonais qui a cette intuition fantastique de dire « il faut inviter les jeunes à venir ». Et les JMJ, qui sont nés en 84-85, eh ben aujourd'hui, des années après, ça continue de charrier 2 millions, 3 millions de gens. À Rio, il y avait 3 millions de jeunes. Et c'est ça, je pense, qui a été très important dans l'histoire de l'Église. Ce contact avec la jeunesse que le pape polonais a réussi, comme ça.
Ça, c'est pour Jean-Paul II. Benoît XVI.
Benoît XVI, ce qui restera dans l'histoire, c'est sa démission. Incontestablement, parce que depuis la fin du XIIIe siècle, aucun pape n'avait jamais démissionné. Benoît XVI a eu cette intelligence, lui qui passait pour un vieux conservateur, qui n'allait surtout pas changer les règles, lui a eu cette intuition extraordinaire de dire les progrès de la médecine vont aboutir à une situation impossible à gérer. Si vraiment les papes doivent mourir de leur belle mort, eh bien on aura d'ici 15-20 ans des papes de 105 ans, 110 ans qu'on va prolonger médicalement et qui seront évidemment incapables de diriger une église d'un milliard et demi de personnes. Donc l'intuition de ce pape est très pratique finalement.
Oui, mais est-ce que c'est si significatif que ça finalement?
Oui, parce que ça ramène la papauté à son statut réel. On dit bien sûr l'église est sainte. Oui, l'église est sainte par son histoire, par les hommes qui apportent la bonne nouvelle. Sauf que l'église c'est quand même d'abord des gens comme vous et moi, et les papes sont d'abord des hommes comme vous et moi, et il faut pas penser qu'un pape c'est un surhomme, un demi-dieu ou une statue de marbre qui est capable de gérer l'église même quand il est grabataire ou très vieux. Donc ce pape qui justement était assez attaché à la tradition de l'église, eh ben il a brisé cette tradition sur un point précis mais qui va un petit peu plus loin que le simple aspect pratique ou médical.
Alors le pape François, lui, ce serait évidemment faudrait attendre qu'il ait fini son pontificat, mais peut-être déjà avec ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a déjà quelque chose où dire là, il restera dans l'histoire parce que...
Eh bien, je vais vous décevoir, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt. N'oubliez pas que Jean-Paul II, dont on parle beaucoup, il est resté 26 ans. 26 ans. Ouais, là, le pape François, c'est encore un peu court. On voit bien qu'il a poussé dans certaines directions, notamment cette idée que l'Église, il faut arrêter l'Église qui condamne et faire en sorte que l'Église accueille. Cette idée toute simple, hein, l'Église qui condamne, l'Église qui accueille. Ça restera peut-être sa marque de fabrique et qui entraîne tout le reste. Ce qu'il a dit au synode, ce qu'il dit encore aujourd'hui, parfois avec une certaine maladresse d'ailleurs, dans certains retours en avion, faut bien le dire. Mais son idée fondamentale, cette idée des périphéries. Vous savez, quand il dit aux chrétiens, arrêtez, quittez vos clochers et allez aux périphéries, allez annoncer la bonne nouvelle aux périphéries. Ça, c'est la marque du pape François. Reste à savoir si cette marque restera en effet dans l'histoire ou pas.
Une interview à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr, rubrique Invité du soir. Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans, et cinq de ses collègues français s'envolent aujourd'hui pour la Corée du Sud, un voyage sur les pas des 9000 catholiques martyrs tués au 19e siècle. L'évêque du Mans est à l'origine de ce voyage. Le diocèse de la Sarthe accueille aussi par ailleurs trois sœurs venues de Corée du Sud depuis le début de l'été.
L'hebdo-région, si on sortait.
Allez, direction les Sables-d'Olonne à présent, où le Vendée Globe se prépare. Le 6 novembre prochain, 29 skippers prendront le départ pour un tour du monde à la voile. En attendant, les Vendéens et les passionnés de voile peuvent rencontrer ces aventuriers des mers et leurs bateaux sur les pontons du port d'Olona. Un reportage de Fanny Brevet de RCF Vendée.
C'est ce samedi à 10h que sera inauguré le village du Vendée Globe aux Sables-d'Olonne. Exactement 23 jours avant le départ de la 8e édition de cette course mythique qu'on appelle aussi l'Everest des mers. Un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance. Afin de préparer cet événement comme il se doit, le département de la Vendée a mis les petits plats dans les grands. Comme pour les précédentes éditions, tout un village a été installé autour du ponton qui accueille les bateaux des skippers. Chaque jour, plus de 50 000 visiteurs viendront sur les pontons pour voir ces bateaux et rencontrer les marins, mais aussi flâner entre les différents espaces. Tout d'abord, le hall du conseil départemental où les curieux pourront découvrir tout ce qu'il y a à connaître sur la course. À la veille de l'ouverture du village, les ouvriers redoublent d'ardeur pour terminer à temps. Visite guidée du chantier.
Alors juste un mot, ici ce sera des banques d'accueil. Hein. Bien sûr l'espace n'est pas du tout terminé, etc. Où il y aura toute la distribution gratuitement pour le public de l'affiche du officiel du Vendée Globe, l'affiche des skippers, l'affiche des bateaux, hein, comme traditionnellement. Donc ils pourront se procurer gratuitement ces espaces. Alors là, on aura bien sûr, vous voyez, des structures qui permettront bien sûr de présenter le décompte de la course. Puis on va rentrer dans le premier espace, le deuxième espace, qui est l'espace de présentation des skippers.
Un hall conseil départemental de la Vendée qui a pour vocation de faire découvrir la légende du Vendée Globe, mais aussi les nouveautés de cette édition. D'autres pavillons sont prévus pour accueillir le hall Vendée Tourisme, celui de la Chambre d'Agriculture, ainsi que celui des entreprises vendéennes, partenaires et sponsors. Le tout afin de faire rayonner le nom de la Vendée au travers du globe, comme nous l'explique Yves Auvinet, président du conseil départemental et président de la société organisatrice de la course.
Ben, je crois que c'est un concept qui est la propriété des départements et il le restera, propriété des départements. À partir de là, je crois que notre volonté, c'est qu'au travers de l'organisation de cette course et de tout ce qui peut être fait autour, que ça soit un message fort porté d'une manière départementale, régionale, nationale, internationale, pour montrer ce qu'est la Vendée et au travers de cette course, que le retour, si je puis dire, en termes économiques, en termes touristiques, soit le meilleur possible pour l'ensemble des acteurs de notre département.
Un événement qui devrait attirer le jour du départ près de 350 000 spectateurs aux Sables-d'Olonne. Le risque d'attentat et notamment l'application du plan Vigipirate ont obligé les organisateurs du Vendée Globe à prendre encore plus de précautions qu'à l'accoutumée. Les détails avec le préfet de Vendée, Jean-Benoît Albertini.
Comme nous l'avions fait pour les grands rassemblements estivaux qui ont été nombreux en Vendée, qui ont réuni parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes, nous avons rehaussé ce niveau de sécurité à la lumière de l'enseignement de l'état d'urgence et du besoin de sécurisation accrue de cette manifestation, une participation qui sera sans doute en hausse par rapport à 2012, un événement qui va évidemment avoir un retentissement médiatique très important et donc pour nous la nécessité, pour nous et pour les organisateurs, la nécessité d'élever ce niveau de sécurité, une mobilisation des services de l'État qui restera très importante avec plus de 500 personnes le jour du départ qui s'ajoutent aux moyens de l'organisateur, à la fois sur terre et sur mer, et donc une implication pleine et entière, malgré les contraintes du moment sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Intérieur, l'ensemble des ministères concernés ont consenti un effort à la hauteur de cet événement et de la participation qu'il va entraîner. Sur l'aspect proprement de la sécurité et de la prévention du risque attentat, par exemple des caméras vidéo de télésurveillance qui n'étaient pas présentes en 2012 et qui vont l'être ici, qui ont été mises à disposition par la zone de défense, ou des moyens de traitement du risque bactériologique et chimique. Non pas que nous estimions qu'il y a une menace particulière, mais de manière à pouvoir faire face à toute éventualité, y compris celle-ci, si elle devait survenir, pour protéger les personnes, mais protéger aussi les services de secours qui seraient appelés à intervenir.
Le village d'Yvan des Globes ouvre donc dès ce samedi à partir de 10h au Sable d'Olonne. 3 semaines d'animation pour découvrir le dynamisme vendéen en attendant le départ de la course qui sera donnée le dimanche 6 novembre à 13h02 par le prince Albert II de Monaco.
Et je vous rappelle que 29 concurrents de 10 nationalités différentes sont attendus pour le départ de la course. 300 000 personnes devraient également être présentes pour l'occasion. C'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté aujourd'hui par la rédaction de RCF Anjou avec l'aide des autres rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Merci de nous rester fidèles. On se retrouve la semaine prochaine.